Informer, comprendre, agir. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire pour la planète. C'est l'heure de la chronique environnementale avec Jean-Louis Caffier.
Depuis plusieurs années, la sécheresse n'est plus un épisode exceptionnel. Elle s'installe durablement, bouleverse nos paysages, nos habitudes et nos ressources en eau. Pour nous éclairer sur les enjeux de ce phénomène devenu quasi permanent, place maintenant à la chronique de Jean-Louis Caffier. Comme toujours, avec son regard aiguisé et sa rigueur journalistique, il décrypte pour nous les causes, les conséquences et les pistes possibles pour s'adapter. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Romuald, bonjour à tous.
Alors Jean-Louis, première question. Je voulais savoir, est-ce que le Loiret est-il en situation de sécheresse ?
Oui, mais il faut pas trop paniquer, on est juste au début. Il y a plusieurs niveaux d'alerte dans ce que gèrent les préfectures un peu partout en France. Il y a la première, c'est la vigilance, donc qui implique rien, mais qui dit attention, on va commencer à regarder. La deuxième, c'est l'alerte, où là on commence à dire faites des efforts dès maintenant sur un certain nombre d'usages de l'eau. Troisième étape, c'est l'alerte renforcée. Alors là, il peut y avoir des interdictions prononcées par la préfecture qui gère tout ça. Et puis le quatrième niveau, c'est l'alerte crise. Et là, évidemment, il y a beaucoup de restrictions, il y a beaucoup de choses qui sont interdites, comme les remplissages des piscines, comme lavage des voitures, comme l'irrigation des cultures, pour une part en tout cas. Il faut savoir qu'il y a trois types de sécheresse. Là, on est dans le Loiret, dans le type 1, qui est le type habituel de météo. Donc, il n'y a pas eu assez de pluie et les sols sont secs en surface. Deuxième étape, la sécheresse agricole. Là, il manque de l'eau plus en profondeur, ce qui gêne considérablement l'agriculture notamment. Et puis, il y a une troisième sécheresse qui est la plus spectaculaire, c'est la sécheresse hydrologique. C'est quand les lacs, les rivières, les nappes souterraines sont à des niveaux très bas. Et c'est ce qu'on appelle la sécheresse hydrologique. Mais on n'est pas là pour le moment.
On n'est pas dans un cas d'urgence totale.
Non, pas dans le Loiret. Alors il y a des situations assez paradoxales. Contrairement à ce qu'on imagine, il pleut plus au nord et moins au sud. Cette année, il a beaucoup plu au sud. Donc les nappes se sont rechargées. Contrairement à ce qui s'est passé en Bretagne, mais aussi dans les Hauts-de-France ou dans l'Ouest, un petit peu, ça nous a frôlé ici dans le Loiret. C'est passé un peu plus à l'ouest sur les pays de la Loire, mais donc c'est une situation assez paradoxale, je dirais. Mais on a l'habitude, quand on parle de climat, d'avoir beaucoup de paradoxes.
Est-ce qu'il y a des mesures de restriction d'usage qui ont été prises en rapport à ça ?
Non, pas encore, mais il y a des conseils pour essayer d'économiser au maximum. On verra peut-être tout à l'heure ce qu'on peut faire, à la fois globalement, mais aussi individuellement, parce que ça compte, tout va compter dans ces situations difficiles. Mais pour le moment, pas de restriction. Mais comme d'habitude, essayons d'économiser, ça fait pas de mal, qu'il y ait restriction ou pas.
Quels sont les nombres de sécheresses qu'il y a en France ?
Mais globalement, les sécheresses augmentent. Depuis les premiers rapports du GIEC, on a vu qu'il y avait une augmentation de 10-20% du nombre et de la violence des sécheresses. Il y a les deux qui jouent en même temps, plus et plus fort. Ça, c'est très important.
Et quelles sont les conséquences ?
Elles sont nombreuses, alors elles sont pas toujours très connues. Les premières conséquences, c'est évidemment pour les cultures, pour la forêt également, et pour l'agriculture, à cause de la baisse des rendements susceptibles d'intervenir en cas d'insuffisance d'arrosage. Alors là, c'est important, parce que si les récoltes sont moins importantes, qu'est-ce qui va se passer ? Les prix vont monter.
Effectivement.
Et donc, ça va déboucher sur un problème social, à combien le kilo de tel ou tel légume. Ça a un sens tout à fait important. Souvenons-nous de ce qui s'est passé avec le printemps arabe qu'on a abordé il y a une dizaine d'années maintenant. On entendait dans les manifestations un peu partout, dans le pays du Maghreb, mais aussi jusqu'en Égypte ou ailleurs, des revendications qui portaient pas forcément sur la soif de liberté ou la fin de démocratie, mais sur la fin tout court. Le prix du blé avait beaucoup augmenté et les manifestations à ce moment-là étaient surtout dirigées vers les dirigeants qui n'arrivaient pas à maintenir un niveau de prix acceptable. L'Égypte avait importé des millions de tonnes de blé pour éviter les incidents et la révolte du peuple. Donc le climat qui change, les difficultés qui se multiplient, notamment sur l'agriculture, ça peut déboucher et c'est le principe des conséquences de crise en crise, crise alimentaire, crise sociale, crise des prix et crise politique.
Ça fait en fait un cercle vicieux tout ça, donc oui. Forcément ça continue encore aujourd'hui et ça empire encore de plus en plus.
Oui.
Et qu'est-ce qu'on doit s'attendre à avoir plus de sécheresse à l'avenir?
Oui, c'est ce que prédisent les scientifiques du GIEC, donc du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il va y avoir davantage de sécheresse, comme il va y avoir davantage de phénomènes météo extrêmes. Alors ça paradoxal aussi là, parce que sécheresse, mais ça peut déboucher sur des périodes orageuses très fortes. Hein, pourquoi? Parce que la sécheresse et la chaleur, et ben ça favorise l'évaporation de l'eau. Donc il y a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Il faut rappeler d'abord que la vapeur d'eau, c'est le premier gaz.
C'est vraiment ouais, le
devant
gaz,
le dioxyde de carbone et le méthane. Hein. C'est la vapeur d'eau. Et cette vapeur, et ben elle s'agrège, elle forme des nuages. Et quand cette masse d'air chaud rencontre l'air froid, ben ça déclenche les orages qui peuvent être très violents. Hein.
Puis dans le Loiret, on voit de plus en plus de cas, hein, surtout même avant les périodes estivales d'été. Donc
oui.
Surtout en printemps, il y a de plus en plus d'orages. Donc forcément, c'est ça aussi, c'est le point de cause de la sécheresse.
Ah oui, tout à fait, oui, indirectement. Le réchauffement climatique a des causes qui sont très bizarres parfois. Il faut expliquer ça parce que les gens ne comprennent pas.
Oui.
Le réchauffement climatique peut aboutir à une baisse des températures.
C'est sûr.
Ah bon, pourquoi? Parce que ça va favoriser le déplacement des masses d'air. Chaud, ça vient du sud, ça vient de l'Afrique du Nord, et froid, ça vient de l'Arctique.
D'accord.
De l'Arctique. Et là, le mouvement de ces masses d'air qui était assez bien régulé auparavant commence à s'amplifier. Donc, il y a plus d'air froid ou d'air chaud qui se déplace vers le nord ou vers le sud, et ça crée des phénomènes météo qui peuvent être très très dramatiques, hein, parce qu'on a vécu quand même ces dernières années des inondations qui ont été épouvantables. On se souvient de Valence en Espagne, par exemple, il y a eu plus de 100 morts dans une ville du sud de l'Europe à cause des inondations et à cause des orages. Et puis, il y en a partout en ce moment. Hein,
Et aussi dans le Var aussi, si on peut prendre par exemple à Nice, forcément, très récemment.
Oui, oui, oui.
Et comment on peut éviter cela en termes d'économie d'eau, forcément
Oui.
Parce que on peut capturer toute cette eau.
Oui, oui, bien sûr. Alors la première réponse, c'est il faut résorber les fuites, parce que les réseaux de distribution d'eau, c'est souvent dans un état catastrophique. Il y a en France, il y a 1 litre sur 5 qui est perdu à cause du mauvais entretien des réseaux et des tuyaux, tout simplement. Ça peut aller dans 170 communes recensées, il y a 1 litre sur 2 qui se perd en raison des fuites. Et puis, il y a des pays qui sont extrêmement mal équipés, comme l'Angleterre, par exemple, où il y a des très, très gros problèmes. Donc, un, boucher les fuites. Deux, il faut restaurer les zones humides, les étangs, les mares.
Les lacs.
Oui, les lacs aussi, qui sont de véritables éponges. Et c'est là où on peut stocker l'eau. Il faut aussi restaurer ce qu'on appelle l'hydromorphologie des rivières. Qu'est-ce que ça veut dire? Les rivières, elles avaient leur cours tranquille il y a quelques années. On a voulu supprimer des boucles parce que c'était pas pratique pour faire des routes ou des autoroutes. Donc on a supprimé tout ça. Résultat, les rivières vont beaucoup plus vite rejoindre l'océan ou la mer. Donc on peut travailler là-dessus également. Et puis il y a toute une série de mesures que nous on peut prendre directement, quoi. Il faut économiser. Si on prend pas un bain et qu'on prend une douche, on économise 100 litres d'eau à chaque fois.
C'est quand même énorme.
Hein. C'est pas mal. Mmh. Si on prend une douche et qu'on coupe l'eau une fois qu'on se savonne et puis qu'on se rince après, on économise jusqu'à 25 ou 50% du débit de la douche. Et puis, on peut aussi récupérer l'eau de pluie, par exemple, pour arroser le jardin ou le potager. Donc, il n'y a pas que des grandes solutions. Tout le monde peut aussi agir, et c'est ça qui est intéressant.
C'est ça, et puis forcément, avec peu de moyens, beaucoup de choses.
Peu de moyens et de la volonté.
Exactement, c'est avant tout ça. Est-ce qu'on peut revenir sur cet accident qui s'est passé en Suisse?
Ah oui, oui, oui.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a un glacier qui s'est effondré, donc les autorités suisses repéraient le secteur depuis un moment. Les centaines de personnes qui étaient dans le village qui a été englouti ont pu évacuer à temps. Ce qui s'est passé, c'est une autre conséquence du réchauffement climatique. En haute montagne, mais ça existe déjà dans les Alpes, en France, dans la vallée de Chamonix et dans tous les plus hauts sommets, il y a beaucoup de parois rocheuses qui tiennent grâce au permafrost. C'est l'eau qui est gelée et qui fait office de ciment. C'est pareil, ça colle les roches.
D'accord.
Or, depuis un certain temps, ce permafrost, il est en train de fondre à cause du réchauffement. Il tient plus les roches qui sont là, les glaciers, la glace. Et tout peut s'effondrer.
S'effondrer à tout moment.
Oui, on a déjà observé beaucoup de choses. Hein, le massif du Mont Blanc, il faut se protéger quand on veut aller escalader, parce qu'il y a des pierres qui se cassent la figure. Il y avait un bouquin qui était sorti il y a une bonne vingtaine d'années, 30 ans, c'était les 100 courses dans les Alpes de Gaston Rebuffa, qui était un des guides historiques du massif du Mont-Blanc et de Chamonix. Aujourd'hui, sur ces 100 courses, il n'y en a plus une qui peut se faire comme il y a 30 ans, à cause des éboulements, à cause de la fonte du permafrost qui retient les rochers. C'est ça la situation qu'on a aujourd'hui.
C'est vraiment une urgence absolue, si on peut
dire. C'est une urgence, oui, qui n'est pas suivie par beaucoup de monde, malheureusement. Ça fait un moment que les scientifiques, les glaciologues et les météorologues, climatologues alertent. On perd beaucoup de temps et ça va être de pire en pire. Il faut bien s'en rendre compte. Mais ça n'empêche pas de travailler et de bosser, notamment sur l'eau, pour éviter les sécheresses ou les inondations.
Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure avec tout ce qu'on a échangé sur l'économie d'eau, sur la sécheresse?
Oui.
Quels sont les moyens à mettre en œuvre?
Oui, ça veut dire qu'on est rentré dans la phase critique. Le réchauffement climatique, c'est plus un truc qu'on voyait, ça va se passer dans 100 ans ou à la fin du siècle prochain. C'est maintenant. C'est dans les jardins du Loiret, comme c'est dans les agricultures, les plus grandes cultures ailleurs, ou comme c'est à l'autre bout du monde. On a eu des inondations au Nigeria ces jours-ci, il y a eu plus de 200 morts. On a des incendies encore dans la forêt canadienne, qui est pourtant un truc qui était censé pas brûler tout de suite.
Oui.
Si facilement. Les phénomènes météo extrêmes se multiplient, on les voit partout, sur tous les continents. Et malheureusement, les grosses conférences, les COP, etc., que je connais, ne prennent pas les décisions suffisantes.
Ils prennent un peu à la légère, si on peut dire.
Non, c'est pris sérieusement, mais oui. les réponses sont pas
apportées. Ne sont pas abouties.
Non. Parce que les COP, bon, c'est spécial, on pourra en reparler un jour, mais bon. C'est 195 pays qui doivent signer un document qui, à la virgule près, est le même pour tout le monde. C'est-à-dire que les États-Unis ou la Chine, qui polluent énormément ou qui émettent énormément, doivent signer le même texte que les îles du Pacifique qui vont disparaître à cause de la montée des eaux.
Donc, effectivement, vous voyez
que c'est compliqué d'avoir un consensus offensif. Parce que les mesures, on les connaît. Hein, on sait ce qu'il faudrait faire, mais on le fait pas.
Face à cette réalité, que faire effectivement? Il ne suffira pas de prendre moins de douches et pas de bains, ni de ne pas laisser couler l'eau en se brossant les dents. Il nous faut inventer une autre consommation, une autre agriculture, moins d'intensifs et beaucoup, beaucoup plus d'intelligence collective. Et c'est sur ces belles paroles qu'on clôt cette chronique environnementale avec Jean-Louis Caffier. À très vite pour un prochain numéro sur Studio 45.